Et puis après, un an après, il n'aura plus le même poids sur cet événement. Donc il y a des choses qui naissent comme ça, un certain temps, en termes de bien ou de mal, de souffrance ou de plaisir, et disparaît assez vite, et d'autres qui naissent et durent longtemps. Et vous emmerdez longtemps. Donc vous comprenez que votre esprit est comme un champ. Et ça nous ramène, c'est très important, essayez de comprendre ça, ça nous ramène à la philosophie occidentale. Merleau-Ponty, le grand Maurice, avant de mourir, dit la chose suivante, que c'est à cause de l'idéalisme de Descartes, je pense donc elle-même peut-être, n'est-ce pas? Il dit c'est à cause de l'idéalisme de Descartes qu'on a été persuadé que nous étions un flux de vécu individuel, alors que nous sommes un champ d'être. Exactement ce que je disais. Plutôt que de se considérer comme un flux de vécu individuel. Moi, je pense ceci, je ressens cela. Qualité variable qu'on ne maîtrise pas du tout. Personne ne maîtrise la qualité de sa vie s'il ne pratique pas. Eh bien, plutôt, donc, dit Merleau-Ponty, que de nous voir comme un flux de vécu individuel, il dit nous sommes un champ d'être. Et c'est, il touche en plein dans l'île. C'est juste avant de mourir, il dit ça. Un champ d'être. Donc chaque instant, qui n'a pas de durée, où nous vivons, en somme, chaque instant, nous participons de tout ce qui est. En cela, il y a une étendue infinie, il y a un champ infini de qualité ou de souffrance qui nous touche, mais en pratiquant que l'on peut diriger. Donc en pratiquant, on dirige l'intégralité de ce champ dans le domaine d'une élévation de la qualité de vie. C'est uniquement lié à la pratique. Pour ce qui est des autres humains, ceux qui ne vivent pas, ils ne font que subir le fait d'être.
Être seul.
Pardon?
Être seul. La raison, et qui amène à l'élévation, c'est le fait d'être plusieurs, d'être tous, dans une globalité, mais rester seul.
En fait, tu peux pas être seul. Et qui plus est, lorsqu'on pratique, on crée l'apparition de l'éveil autour de nous chez les êtres, qu'on le voit ou pas, qu'on le mesure ou pas, et nécessairement, si le fait de réciter fait apparaître le corps de la loi en nous, forcément que si d'autres récitent Daimoku, le corps de la loi prend de l'ampleur. C'est ça qu'on appelle le poison group, ou la propagation mondiale. C'est faire apparaître un corps de la loi extrêmement grand qui entraîne l'intégralité des êtres.
C'est l'illusion du jeu. Voilà, je vais souffrir.
Oui, bien sûr. Oui.
L'illusion du jeu.
Bien sûr.
Et pratiquer soi uniquement, c'est
ça. Ça veut dire ça. Au départ, c'est vrai qu'on peut le faire, c'est comme on est. C'est un peu, jamais.
De toute façon, ça n'existe pas.
Oui.
Ah oui.
De toute façon, qu'on veuille ou non, le jeu, on veuille ou non, voilà. Le jeu n'existe pas.
Si on veut, on peut. Mais pratiquer, c'est faire apparaître l'éveil. On peut le voir en nous. C'est faire apparaître l'éveil, pratiquer. Donc, on n'a pas besoin de pratiquer pour. C'est pratiquer
est.
E-E-S-T. Donc, on continue. Un champ d'être, disait Merleau-Ponty. Ça, c'est beau. À chaque instant, nous sommes un champ d'être. L'instant n'a pas de durée, rappelez. La vie n'a pas de durée. L'existence n'a pas de durée. Bien sûr. Si on ne pratique pas, il y a une absolue nécessité, comme le voyaient les Grecs avant Socrate, ou Nietzsche ou Schopenhauer. Il y a une absolue nécessité de tout ce qui se passe. L'humain ne dirige rien. Comprenez bien que je est un effet. Moi est un effet. Ressentir quelque chose est un effet. On n'en est pas maître. Voir est un effet. On ne voit que le passé des choses. Entendre est un effet. On n'entend que le passé immédiat de la chose. Avec de la pensée, on ne peut rien faire, c'est un effet. D'accord? Donc il dit, vous imaginez peut-être que l'enfer, les barres de fer de ses gardiens, ou les ordres hurlés par les Aborasetsu se trouvent en quelque lieu lointain. Mais il n'en est rien. Cet enseignement est d'une importance primordiale. On ne peut pas échapper au fait d'être. d'être dans l'enfer, dans l'avidité, dans l'animalité, la colère, la joie, l'éveil, mais on ne peut pas échapper au fait d'être. C'est comme ça. C'est pas de la méchanceté de ma part.
Ça, c'est une fatalité.
C'est une fatalité.
C'est la très fatalité.
Mais soit on subit, soit
on agit,
soit on emmène les êtres vers l'éveil, bien sûr. Et aussi, à propos de ce concept de propagation mondiale, qui est une prédiction du Lotus. Dans le Lotus, il est dit que, à l'époque de la fin de la loi, l'enseignement du Lotus se répandra dans l'humanité entière. C'est maintenant, en fait. Donc, le souverain de la loi dit que, il est important toutefois de préciser que malgré cette prophétie de la réalisation infaillible de la vaste propagation à la fin de la loi, si nous n'envisageons pas d'efforts en ce sens, la vaste propagation ne se réalisera jamais. Autrement dit, le fait que la propagation de la loi, le fait que la prophétie s'effectue, c'est uniquement lié aux efforts que l'on fait nous en pratiquant. Il dit, cela concerne directement votre pratique. Donc d'un côté, il y a ça. D'un côté, nous sommes en 2007, nous avons rencontré la loi depuis un certain temps, et nous faisons partie d'un tissu qui pratique, qui répond à la loi autour de lui, donc nous faisons partie de ce mouvement de la prédiction du Lotus. On en fait partie. Ça dépend de nos efforts. Mais, en même temps, on fait partie de cette propagation de la loi dans le monde. Il est dit également que, pratiquant matin et soir, les œuvres infinies apparaissent en nous. Et ces œuvres apparaissent non seulement dans le présent, mais également dans le futur. Non seulement dans la vie présente, mais après la mort également. Et ceci à l'infini. Autrement dit, il y a deux aspects qui s'entrecroisent. D'un côté, le fait de pratiquer les valeurs et vertus qui arrivent dans l'être, ça c'est éternel. À travers naissances et morts, toujours cet être se trouvera dans une situation où il rencontrera la loi, et où il sera en mesure de la pratiquer, de l'enseigner, et de faire ce mouvement de propagation mondiale. C'est-à-dire que dans l'infini des temps et des lieux, il y a tout le temps des existences dont la réalité est de pratiquer la loi, de l'enseigner et de faire le mouvement de propagation mondiale. En même temps que nous sommes maintenant dans cette époque. Les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'en fonction de la qualité de vie qu'on va développer là, dans cette existence, on pourra très bien, dans le futur, être un disciple direct de Nichiren, ou d'être le second grand patriarche, ou d'être un disciple exécuté, décapité à l'époque de Nichiren. On a tous les schémas existentiels qui s'offrent à nous à tout instant. Dans cette existence présente, tous les efforts doivent converger, autant que faire se peut, vers le fait de propager l'enseignement du Bouddha. Mais en même temps qu'on fait ça, qu'on n'y arrive ou pas, qu'on meure avant, de toute façon, ayant compté ça en nous, tout le temps, on sera dans les conditions où on sera amené à propager la loi et à la répandre par bienveillance. Parce qu'évidemment, tout cela n'est que l'expression d'une bienveillance qu'on découvre en nous et qui devient, en fait, notre raison d'être prioritaire et la plus élevée. Bien sûr. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas d'autre. Voilà. Il n'y a pas de passé. Et aussi donc, quand il dit que, vous imaginez peut-être que l'enfer, c'est un lieu ailleurs, comme ça. Il dit, mais il n'en est rien, cet enseignement est extrêmement important. Souvenez-vous de Parménide, d'Élée, à -500 et des poussières. Il dit, pour ce qui est de l'être, jamais il n'était, ni ne sera, car il est au présent, tout ensemble, un continu. Il n'y a pas de temps. Donc il n'y a pas de passé. C'est erroné de penser qu'il y a un passé. Une histoire, hein. Pensez une histoire. Michelin, 13e siècle, Chagamoni, -5, c'est des promos. Je veux bien, mais ça n'aboutit pas. Et aussi, Parménide dit, à propos de l'être, immobile dans les limites de larges liens, il est sans origine et sans fin, puisque la naissance et la mort sont rejetées. Le même est restant dans le même, il se tient en soi-même, mais c'est ainsi qu'il reste planté là, au sol, car la nécessité puissante le tient dans les liens de la limite qui l'enclôt tout autour. Et le temps, TEMPS, ne sera jamais quelque chose en plus de l'être. C'est ce que dit le Bouddha. Pour tous les êtres, ils sont plantés, immobiles, au sol, du fait de la nécessité. Qu'est-ce que la nécessité? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le karma. Ça s'impose. Apparaissant en tant que lapin, vous ne pourrez jamais avoir une vie de kangourou. Toujours. Il y a une absolue nécessité. Naître est un effet. Respirer est un effet. Que le cœur batte est un effet. Que le sang circule est un effet. Vous n'y êtes pour rien. Mais le Ponty, cité, disait, ce n'est pas moi qui fais battre mon cœur, pas plus que c'est moi qui fais mouvoir le sang dans mes veines, pas plus que c'est moi qui me fais penser. Si on ne pratique pas, il y a absolue nécessité. Si on pratique, c'est notre monde. Si on pratique pas, il n'y a pas de choix. Si on pratique, naître est un acte volontaire. Voilà. Mais distinguez toujours dans la pratique, par la pratique.
Ce sont des
logiques différentes, qui sont étanches. Qui sont étanches. Bien sûr, du qualité. Il y a des êtres actuellement dans le monde. Il y a des êtres très proches et qui aspirent à quelque chose de plus vaste que leur médiocrité quotidienne. Il y a des êtres qui n'attendent qu'une chose, c'est de rencontrer la loi pour se dire bordel, c'est ce que je cherchais.
Et quand tu as atteint ça, ça veut dire que le Seigneur te dit, tu repars d'où? Tu repars.
Ce sont deux mondes étanches. Mmh. Au moment où tu t'éveilles, tu réalises que tu as toujours été éveillé.
Mmh. Y a pas de prochaine
et que ton éveil traverse naissance et mort. Mais si tu ne t'éveilles pas, la vie est toujours subie. En tant que femme, en tant qu'homme, en tant que chèvrefeuille, en tant que piscine, pas étoile, tout ce que vous voulez. Quand j'ai une connerie, je vois si les gens réagissent comme ça.
Tu vois, ou pas? C'est un bon karma.
Aussi, on continue? Vous en avez marre déjà. Cet enseignement est d'une importance primordiale, mais je vous le transmets. Tout comme le Bodhisattva Manju révéla à la fille du roi dragon le principe secret de Sokushin Jobutsu, c'est-à-dire que l'on peut atteindre l'éveil sans changer d'apparence. Le sans changer d'apparence signifie que quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, quel que soit l'intelligence, quel que soit le passif, quel que soit la culture, ça n'a aucun lien avec l'éveil, et que l'éveil peut surgir quel que soit l'état dans lequel, jusqu'à maintenant, on s'est emballé. Donc c'est sans changer d'apparence. Ça veut dire aussi qu'il n'est pas nécessaire de renaître en tant qu'homme pour une femme pour atteindre l'éveil. Ça veut dire aussi qu'il n'est pas nécessaire de plante de passer à autre chose pour atteindre l'éveil. La raison, la preuve en a du reste que le hanzon est fait de végétaux. Hein, c'est du papier et de l'encre. Eh bien, le papier et l'encre sont dans l'éveil, sans avoir à changer de forme. C'est la grande différence entre l'enseignement du Bouddha originel et les enseignements provisoires de Shakyamuni qui disaient qu'il fallait accumuler les œuvres de bien pendant des éons et des éons, naître et mourir sans arrêt, pour tout doucement enlever les troubles et mettre à la place de bonnes choses. L'enseignement du Bouddha originel, pas du tout. C'est les troubles qui nous permettent l'apparition de l'éveil. C'est grâce à au feu qui brûle les troubles que nous éclaircissons notre vie. Donc il ne s'agit pas d'abandonner les troubles dans l'enseignement du Bouddha originel. Hein.
C'est ça,
pardon?
Ça
rentre encore
dans la quatrième, on dit que la méthode des bonnes pratiques avec vos propres armes accumulées au cours des choses anciennes et au passé. Voilà.
C'est pour qu'on puisse comprendre. Ouais. C'est pour qu'on puisse comprendre.
C'est que accumulé.
Parce que l'humain peut comprendre que s'il est con, forcément, c'est qu'il y a des choses derrière et on peut en être comme. L'humain peut comprendre, mais c'est faux. C'est l'obtention de l'éveil sans changer d'apparence. Les troubles sont l'éveil en pratique. Si on ne pratique pas, les troubles sont les troubles. Parce qu'on peut dire, je les ai accumulés depuis un temps fou. Mais si on pratique, les troubles sont la sovénité, l'éveil, et tu réalises que tu as toujours été éveillé. Nikken Shonin disait, lorsque vous atteignez l'éveil, vous réalisez que tous les troubles que vous aviez vécus jusqu'à maintenant étaient des troubles d'emprunt.
Qui nous ont conduits à l'éveil.
Bien sûr.
Grâce auquel on est arrivé.
Et quand on atteint l'éveil, on réalise qu'en fait, notre nature profonde a toujours été l'éveil. Et que les troubles qu'on a eus jusqu'à maintenant n'étaient que des moyens pour nous de renouveler, de faire apparaître à nouveau l'éveil. Pour démontrer aux autres êtres autour de nous qu'on était con comme eux, et que bien qu'on soit con comme eux, on a réussi à s'éveiller. En fait, on a des troubles pour montrer aux êtres qu'on est comme eux. C'est ça notre bienveillance. Comme ils nous ont vus cons et abrutis, ils ne doutent pas que jamais on pourra atteindre l'éveil. On est comme eux. Et donc, c'est de la bienveillance de notre part que de montrer les troubles.
Ah,
on est
bien,
ça. Mesdames, mesdames, vous avez 29 jours pour découvrir.
C'est une bagulée, ça, tu vois.
C'est la bienveillance que montre nos troubles. Il faut comprendre, ce n'est pas que de la théorie, mesdames. Aussi, à propos donc de cette phrase où il est dit que la fille du roi dragon peut atteindre l'éveil. Il est dit dans l'enseignement de Nietzsche Ren. Lorsque je lis l'intégralité des autres sutras que le lotus, je n'ai nulle envie de devenir une femme. En effet, un sutra définit les femmes comme étant les envoyées de l'enfer. Un autre sutra les qualifie de grands serpents. Un autre les compare à un arbre tordu. Un autre sutra enseigne encore que les femmes sont des êtres ayant brûlé la graine de la bodhiité. Donc, rappelez-vous que vous avez une âme depuis le 19e siècle, hein, je crois. Hein. Donc on n'est pas très éloigné.
Et encore.
Et le droit de vote. On n'est pas trop éloigné encore de cette logique qui consiste à dire que les femmes sont privées par nature d'un certain nombre de possibilités et en l'occurrence donc des veilles. Hein, oui, la femme c'est un grand serpent. On est un grand serpent, hein, c'est ce qui est dit. Donc Nietzsche Ren dit, il est généralement admis que les catastrophes trouvent leur origine dans trois femmes. Seul le lotus affirme que les femmes gardant ce sutra sont supérieures non seulement aux autres femmes, mais également ont la capacité de surpasser tous les hommes. Ça, c'est le message du lotus. Autrement dit, aussi bien les hommes que les femmes que les phénomènes, quels qu'ils soient, sont tous liés au Rolandetio, donc il n'y a pas de distinction à faire. Et Nietzsche Ren dit ainsi, sans distinction entre les hommes, les femmes, les moines et les nonnes de ce monde, l'éveillé voit en ceux qui gardent le lotus les souverains de tous les êtres. Brahma et Indra les tiennent en haute estime. Cette pensée me réjouit au-delà de toute expression. Donc encore une fois, le fait de pratiquer, on est un sexe ou un autre, fait que les divinités protectrices sont apparaissent et sont autour de nous.
Il n'y a aucun écrivain, aucun penseur n'a dit des choses comme ça par rapport aux femmes à cette époque.
Si je permets, je te réponds dans 5 minutes.
C'est par bienveillance, tu leur dis, c'est par bienveillance.
Je te réponds dans 5 minutes parce que c'est dit juste après. Il dit, le lotus permet l'illumination, même à ceux qui se sont tout d'abord opposés à lui. Le fait de pratiquer le lotus fait que, ou bien la personne entend et elle se dit, ah chic, je vais pratiquer, ou la personne s'oppose en disant, avec les troubles que tu m'intéresses pas, le bouddhisme n'a pas de résultat.
Voilà.
Mais qu'il fasse un acte ou un autre, c'est pareil. Il l'aura attiré.
Il l'entraîne.
Même s'il y a opposition, parce que la personne se dit, mais les vraiment coquins, ça le fit pour pratique depuis 20 ans, et il est con comme un balai. Donc forcément, je ne vais pas me cacher 20 ans à être con comme elle, donc ça ne marche pas. Mais même quand c'est comme ça, vous l'entraînez par son opposition à la loi.
Mm-hmm.
C'est ce qui est dit dans les textes.
Non, c'est vrai qu'il te connaisse l'élève. Mais ça, c'est vrai que tu ne peux pas le dire, ça. Tu vas dire, elle est conne, c'est la mort.
Mais non, on ne peut rien dire.
Mais c'est vraiment ce qu'il est.
Il est bouddhiste.
Bien sûr.
Le père de ma fille,
on n'a rien à foutre. En fait, on n'a rien à foutre.
Tu es l'un d'eux. Donc, tu viens plus.
Mais qu'est-ce qu'il en fait?
Parce que tu es l'un d'eux. Mais parce que les gens, les principes, ils mettent les noms sur mes.
La déclaration.
Tu ne peux pas arrêter ce que tu ne veux rien. Et tu peux réellement
venir avec quelqu'un. On ne peut pas faire la même chose.
Tu
ne
peux même pas dire ça.
Non, mais il
y a des gens qui ont des bureaux. Or, vous dites que je suis. Mais oui, on peut le dire, on doit le dire. Et en réponse, tu es venu, tu n'as plus de place. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'on est à partir, on n'a pas encore à faire les demandes.
Quelque part, ça t'oblige à faire un effort peut-être sur toi.
Ouais.
Mais de toute façon, que l'effort aboutisse ou pas, tu l'enseignes. Ouais. Il faut que tu vois ça. Quelle que soit la réaction qu'il a, opposition ou acceptation, tu l'enseignes. Regarde ta fille. Au début, elle était dans une colère noire quand tu pratiquais, elle se posait violemment et tout ça. En fait, malgré tout, elle est contrainte d'y venir parce que c'est toi qui l'attire. C'est toi qui dirige l'ensemble de la famille. C'est toi qui entraîne, hein, qui comme un tourbillon avec un centre qui entraîne tout. Tout vient dans ce sens. Parce que, d'une manière ou d'une autre, la qualité que tu produis est la qualité supérieure qu'ils cherchent, même à leur corps défendant. Donc ils sont aspirés par cette qualité que tu produis et qu'ils sentent même en ne voulant pas la sentir. Donc tout doucement, ils viennent à cette qualité, parce que c'est la qualité suprême de l'existence. Donc tout ne peut y converger. Comment dire? Il y avait un concept que j'avais lu dans des textes anciens, que j'ai pas lu de vampire, mais j'ai noté l'idée, c'est cultiver son champ de Bouddha. Bon, il y a un mot sensible pour dire ça, mais cultiver son champ de Bouddha. Et on parlait des bodhisattvas qui tous cultivaient un champ de Bouddha. Mais cultiver un champ de Bouddha, c'est exactement ça, c'est être dans un monde, avoir des parents, des enfants, des maris, des amants, des traites à payer, des conneries, tout ce que vous voulez, dans nos yeux, tout ce que vous voulez, et là-dedans, pratiquer quand même. Eh bien, pratiquer quand même dans ces conditions, matin et soir, jour après jour, c'est cultiver un champ qui est sa propre existence. C'est-à-dire que, on cultive un champ infini, qui est notre infinité à nous. Et donc, tu entraînes tout ça. Même si tu ne peux pas mesurer. Mais comprends aussi que, à l'heure actuelle, avec nos Spoutnik, il est absolument impossible à quiconque de dire exactement la mesure de la côte normande. Mais, comprenez bien, c'est impossible. Et ça dépend avec quoi on mesure. Plus l'appareil de mesure est fin, et plus la côte est grande. Évidemment, si tu mesures sur une carte, tu vas prendre ton double décimètre, tu dis, ça fait environ 220 km. Bon. Si tu calcules avec ton double décimètre, mais sur place, et que tu calcules avec chaque rocher, tu auras 450 km de plage. Et c'est la même. Si tu calcules la marée haute, tu auras une distance. Si tu calcules la marée basse, tu auras une autre distance. Autrement dit, rien n'est calculable. Alors ne me dites pas que vous ne voyez pas que les êtres tournent autour de vous parce que vous pratiquez. Rien n'est mesurable.
Mais quand même, au bout de maintes années, on peut voir quand même.
Oui, on voit. Bien sûr, on voit.
On voit quand même des choses qui sont par rapport aux proches, par rapport aux proches, aux proches, par rapport aux parents, par rapport aux proches.
Quand j'ai dit, moi, j'ai une femme. Parce que j'ai des hommes.
Ah oui, d'accord.
Et maintenant, quand ces fils passent, c'est certain, elle m'appelle,
quotidiennement,
et elle me dit, les papillons, ou les quantiques, alors, il a une énorme.
Ouais, non, je voudrais, au bout de quelques années.
Moi, ça m'amène, cette discussion à une question. J'ai dîné hier soir avec et donc, on a parlé de choses d'autres, je me suis soutenue avec elle, de la voix qui s'est ouverte à moi depuis quelques mois, à cette partie du bouddhisme. Et il s'est instauré un dialogue et tout de sa part. Elle m'a demandé si elle pouvait participer à un autre.
Ah non, on n'accepte pas les étrangers.
J'espère qu'elle est blanche au moins.
Irakienne et hollandaise.
Irakienne. Encore une phrase, on arrête, si vous voulez.
Donc, la réponse.
Oui, bien sûr, la réponse, c'est à moi. En plus, c'est une femme, justement, j'aime pas
les femmes. Voilà. C'est vrai, il n'y a pas des copains. Il n'y a pas des copains qui sont intéressés par le bouddhisme.
Donc, on termine le bas de la page, on finira l'année prochaine, à la rentrée. Ceux qui redoublent d'efforts dans leur pratique chaque fois qu'ils entendent l'enseignement du lotus ont vraiment l'esprit de recherche de la voie. Zizi disait, tirer de l'indigo un bleu encore plus profond. C'est que l'indigo est une plante. Et avec cette plante, je crois, il me semble, c'est une plante, et en fait on tire des étoffes de couleur plus foncée que la plante elle-même. Donc c'est le propre de l'indigo. Plus on tire de matière pour teindre, et plus bleu, c'est plus bleu que la plante. Et il dit, pour nous, le sutra du lotus est l'indigo, et l'intensité croissante de notre pratique est un bleu encore plus profond. C'est-à-dire qu'en fait, bien que l'on récite le lotus matin et soir, on pourra faire un cours un jour, si vous voulez, sur le lotus, ou sur le texte qu'on pratique matin et soir, pour savoir le sens des mots, on pourra le faire. Et ça signifie que, pratiquant matin et soir, nous, on tire des richesses dans notre vie, des prises de conscience plus grandes que ce qui est exprimé dans le texte. Et ça, c'est vrai. Le souverain de la loi, un jour, a dit, plus on pratique et plus on perçoit de choses merveilleuses. Et c'est vrai. Avec le fil du temps, en pratiquant dans 11 ans, on voit des trucs qu'on n'avait jamais vus. Et plus ça va, plus ça avance, plus on en voit. Et on se dit, putain, j'étais con de ne pas les voir avant, mais c'est comme ça. On en découvre des choses. Et la vie devient merveilleuse. Comme on disait tout à l'heure, des arbres qui protègent du soleil et qui sont notre mémoire, qui sont notre réalité instantanée, notre qualité. On terminera sur une phrase de Nichiren. Récitez vous-même Nam Myoho-Renge Kyo d'un cœur unique et préconisez-le à autrui. Ce sera le seul souvenir du passage de votre vie présente dans le monde des êtres. Messieurs, dames, à la prochaine. C'était clair?